Paula,
Vin
et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Et bonjour, un huitième numéro de Polar Vin et Compagnie consacré au prix Robin Cook. Encore, allez-vous me dire, mais ça y est, c'est fini, c'est la dernière fois qu'on vous en parle cette année. Et pour nous présenter les résultats, nous sommes avec l'incorruptible membre du jury, j'ai nommé Guy.
C'est à moi de présenter les résultats.
Voilà. Présent également le mystérieux mais non moins loquace Florent.
Bonjour.
Et toujours à la technique, le légendaire Nico.
Salut, salut.
Alors ça y est, on a les résultats de ce fameux prix Robin Cook. Les résultats, parce qu'il y avait plusieurs prix, Guy. Alors on commence par le prix Jeunesse.
Robin Cook Jeunesse, qui a réuni les élèves de Marcel Aymar, 17 élèves du club de lecture, qui ont lu des livres de la collection Faction, la collection qui a comme slogan « parce qu'on ne prend pas les ados pour des cons ».
Voilà.
Chez l'éditeur Inuit. Donc, ces élèves se sont réunis vendredi dernier, ont décerné le prix Robin Cook Jeunesse à deux co-lauréats qui sont On mange froid de Martin Laurent et Pharos de Sébastien Rutès. Je crois que tu voulais parler de Pharos un petit peu.
Pharos, oui, moi je conseille à 32% de la population de le lire, ce livre.
D'accord.
Puisque c'est un livre qui parle de migrants, mais les migrants sont les Français qui doivent se réfugier en Afrique du Nord, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, avant de vous donner le résultat du prix Robin Cook, encore un peu de suspense. On écoute Michel, qui est bénévole dans une des bibliothèques qui a fait participer ses lecteurs et lectrices au prix, celle de Saint-Bozély. Alors Michel, le polar est-il lu dans les bibliothèques rurales et quel intérêt vos lecteurs et lectrices portent-ils au prix Robin Cook ?
Alors le polar, moi je pense que oui, je vois qu'il y a quand même, on a tout un rayon, vraiment les polars ils sont mis à part, c'est des rayons qui sont régulièrement fréquentés. Après le prix Robin Cook, alors je ne sais pas, il faut peut-être que les gens s'habituent d'une année sur l'autre. Les années précédentes, il y avait peu de personnes qui allaient au bout de la lecture déjà. 5 livres, ça leur paraissait beaucoup. Ils n'étaient pas toujours intéressés par les livres qui étaient proposés, ils en choisissaient d'autres. Certaines personnes parfois lisaient des livres et puis après ne se souvenaient plus de ce qu'elles avaient lu, donc elles n'avaient pas trop envie de voter. Cette année, on a réussi à réunir 6 personnes qui ont voté, donc je trouve que c'est bien pour notre bibliothèque qui n'est pas très grande. Et voilà, donc j'espère qu'on va continuer, quoi. Voilà, les années précédentes, on avait beaucoup moins de lecteurs, donc on va progresser.
Alors, la grande question, Guy, qui a gagné ?
Ah oui, mais il faut donner le vote donc des bibliothèques qui ont participé, qui sont Millau, Le Viala du Tarn, Saint-Afrique, Larzac-Vallée, Cornus, Rodez, Rivière-sur-Tarn et donc Saint-Bozély. Il y a eu 59 votants, et dans ces votants, 24 ont voté pour le livre « Jéronyme et moi » de Lilian Batelot, 16 pour « Sans collier » de Michel Pedinelli, 11 pour « Audrey Brière et les malvenus », 3 pour « Panique en armorique de Dominique Sylvain et 5 pour Mai 67 de Thomas Cantaloube. Parallèlement, le jury s'est réuni et a quant à lui donné une majorité absolue au livre de Géronimo et moi de Lilian Batelot. Donc c'est Géronimo et moi qui a été élu prix Robin Cook 2024.
Ah bravo!
Ouais, bravo Lilian.
Bravo Lilian. Juste avant de parler de Lilian, moi il y a 2 petites anecdotes comme ça. Il y a quand même quelqu'un qui a voté blanc.
Oui, effectivement.
Quel intérêt ?
Sur une bibliothèque qui se trouve à Rivière-sur-Tarn, il y a eu un vote blanc. Bon, mais il ne se présentait pas, une fois de plus, mais il a eu une voix.
Et je voudrais remercier l'auditeur de Polar Veil Company qui a voté sur l'idée qu'il s'est fait du livre en nous écoutant en écoutant notre émission, donc ça veut dire que notre émission est bien faite.
Tout à fait.
Mais ce n'est pas une émission de propagande.
Et on reconnaît les votes blancs.
Donc, on ne va pas reparler du livre de Lilian Batelot, hein, Geronimo et moi. Pour cela, vous n'avez qu'à aller sur radiolarzac.org pour écouter. C'était la deuxième émission, je crois, de Polar V et compagnie, pour écouter un podcast. Mais Lilian Batelot n'a quand même pas gagné ce prix parce qu'il est aveyronnais.
On pourrait le croire, parce que c'est un héroïne au départ. C'est Anceline Viala, né dans l'Aveyron. Il est auteur aveyronnais. Donc on est dans l'Aveyron et on est quand même assez cocardier chez nous. Mais on a un étranger en face de nous qui va nous dire ce qu'il en pense.
Ben, il est né à Aubin, c'est un gars du bassin, Lilian Batelot. Mais c'est pas pour ça qu'il a eu le prix. C'est un roman trépidant. Ça va dans tous les sens. Ça commence ici et ça finit tout là-bas. C'est super.
Effectivement.
Voilà, parole d'étranger.
Bon, et tu en sais plus sur Lilian Batelot ? Inspecteur Dérif, vous avez fait votre enquête ?
Eh ben, c'est un gars du bassin. Lilian Batelot, le bassin, cet autre Aveyron. Je pourrais dire cet outre Aveyron. Un Aveyron si différent d'une autre, enfin du vôtre, messieurs. Que ce soit d'un point de vue géographique, géologique, climatique, politique et d'un point de vue de classe aussi. À Millau, les presque aristocrates ouvriers gantiers qui ont su établir un rapport de force avec leur patron, et à Decazeville, des ouvriers mineurs exploités qui ne peuvent que se révolter. Pascal Dessin est venu nous narrer au mois de mars l'épisode tragique de 1886 avec l'affaire Jules Vatrin. Dans les années 70, être adolescent puis jeune adulte à Decazeville, c'est pas gai. C'est le déclin de l'activité minière, les industries ferment les unes après les autres. L'avenir est ailleurs, c'est sûr. Heureusement, il y a l'escale, le gars que fréquentent Lilo et ses potes. Lilo, c'est Lilian, hein. On vient y assister au concert de Wally et Freddy. Guy connaît Wally et Freddy. De Praxis de Salmacis avant de partir à la soirée chez Régine et avec les copains de la Roseraie à Cap de Nag. Avec des retours parfois difficiles, en Simca 1100. Et au lycée, il y a Jeanne, prof de philo, originale, particulière, pittoresque. Un personnage, quoi. Comme Lilian les aime et en met dans ses romans. Face à l'incertitude, peut-être a-t-elle été la cause ultime d'une prise de décision, d'orientation vers des études en philo. Faut quand même dire que Gilles et Yolande, les parents de Lilian, y avaient été aussi certainement pour quelque chose. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes. Études de philo à Montpellier, quelques années d'enseignement, puis envie d'autre chose. Dans les années 90, c'est le boom des agences de com. Il en crée une sur Montpellier. C'est à ce titre qu'il est intervenu dans des formations à la CCI de Millau. Mais d'autres envies le démangent. Il cède sa société à ses salariés sous forme de société coopérative. Hein, voilà le personnage. Puis vint le temps de l'écriture. En 98, Lilian entame la rédaction d'une saga sétoise, la trilogie Chichois-Baraquette. Quoi ? Les Chichois, c'est des sortes de guinguettes où des acteurs viennent se produire au milieu du public. À 7, un de ces théâtres chichois s'était installé dans une baraquette sur le Mont Saint-Clair. Chichois Baraquette, nom qui est devenu une expression sétoise un peu fourre-tout. Ça pourrait vouloir dire « c'est la pagaille, le bordel », comme dans les vies de Manu, du commissaire Lopez, et dans le milieu politique sétois que l'on suit dans « Avec les loups ». Des premières pages très crues, côté sexe, paraît qu'on est servi. Pour son premier roman, Lilian Batelot avoue qu'il voulait marquer ses lecteurs. Même si dans cette trilogie introductive à son œuvre, on suit les enquêtes du commissaire Lopez, Lilian n'est pas à proprement parler un écrivain de polar. C'est plutôt un touche-à-tout de l'écriture, mais toujours à l'encre noire, très noire même, et engagé. Il aime explorer les genres littéraires, et dans chaque nouvel écrit, il nous surprend. Il plonge dans ses aventures, des personnages simples, toujours un peu largués, toujours un peu borderline. Du roman jeunesse avec du sable dans l'engrenage, Zinedine et Marion ou l'étoile noire. De l'anticipation avec Céline Huit qui gardera le souvenir du blanc, un roman qui reçoit un très bon accueil de la critique et le fait connaître du grand public. Du roman noir bien sûr avec Simple mortel ou Kabylie Twist. Et du roman d'amour aussi avec Terminus mon ange. Mais de l'amour il en met partout Lilian. peut-être pour compenser la noisseur de la vie, le côté obscur de l'espèce humaine. Quand je disais touche à tout, j'aurais pu aussi parler de ses expériences de théâtre, de poésie, de dramatique radiophonique. Je n'ai pas non plus dit que c'est un passionné d'escalade, de tir à l'arme ancienne, qu'il a été cracheur de feu, que c'est un chercheur de champignons réputé. Il y en a tant à dire sur Lilian au-delà de sa production littéraire. Si quand même, il faut parler d'un mode d'expression qu'il explore depuis quelque temps pour faire rencontrer au plus grand nombre ces personnages singuliers qui l'émerveillent. Toujours cette exploration. C'est le film documentaire. Il a ainsi réalisé avec René Garraud la fabuleuse histoire de la paravision. Un concept artistique invraisemblable inventé et porté par Guy Brunet, ouvrier sidérurgiste et génial, dont l'œuvre fait aujourd'hui l'émerveillement des grands musées et des spécialistes d'art moderne et d'art brut. Un autre film documentaire est en cours, Collapsus Paradise, film sur le déclin de ce territoire qu'il affectionne tant, le bassin d'Écazevillois où il est revenu vivre depuis 2020. Pour terminer, il y a Géronimo et moi. Lilian, nous avons sensiblement le même âge. Séquence boomer, nous avons tous les deux joué au camp indien avec les figurines du chocolat King Color, lu les aventures de Chingachgook, le dernier des Mohicans de Fenimore Cooper, paru dans la bibliothèque verte. Mais quel culot d'envoyer une communarde féministe dans ces contrées sauvages. La commune, un autre centre d'intérêt qui nous rapproche. Avec sa dégaine et son chapeau de baroudeur, Lilian Batelot est bien un marin de terre, un loup de mer intérieur, un argonaute de l'imaginaire, un explorateur de l'âme, un corsaire de la destinée humaine, un découvreur des territoires littéraires. Encore bravo Lilian pour ce prix Robin Cook et merci pour le plaisir de lecture que tu nous as offert à travers ce roman, Géronimo et moi.
Mais écoutons Lilian Batelot. Alors Lilian, te voilà lauréat du prix Robin Cook 2024. Quelle réaction à chaud peux-tu nous faire partager ?
C'est un grand plaisir parce que le nom de ce prix, Robin Cook, est à la fois un auteur que j'apprécie vraiment et un personnage que j'aurais bien aimé connaître. Je sais de lui ce qu'a pu m'en dire mon ami Stéphanie Benson, qui est une auteure qui l'a bien connu. C'était un gars vraiment chouette, quoi, qui était né dans un milieu très aristocratique et qui a renoncé à ce milieu-là, quoi, pour vivre la vie des gens ordinaires, même si il était un peu extraordinaire de par ce qu'il écrivait, cet homme-là, quoi.
Mais on n'est pas là pour parler de Robin Cook, on est là pour parler de Lilian Batelot.
Je vous disais pourquoi je suis particulièrement ravi d'avoir obtenu ce prix, quoi. Puis c'est un prix qui est à la fois un prix de lecteur et un prix de jury. Le fait d'être adoubé un peu comme ça par les gens qui lisent, par les lecteurs de base, je dirais, ça fait plaisir.
Donc Lilian Batelot, toute la jeunesse dans le bassin, des Écazevillois, le bassin minier.
Je suis né de parents très jeunes qui n'avaient pas encore de métier. Et donc j'ai été élevé les premières années de ma vie par mes grands-parents, qui étaient mineurs à Cransac, dans le bassin mouillé de Cazeville. J'ai passé ces premières années de petit-fils de mineur, quoi. Mon père a fini son service militaire qui a duré 36 mois. Ils sont devenus tous les deux instituteurs par le miracle des suppléants éventuels ils ont pu, parce qu'ils avaient le bac, devenir instituteurs. Et ils sont devenus instituteurs de campagne parce que les premiers temps, voilà, t'as pas de grade, t'as pas de notes, donc on t'envoie dans les pays reculés. Donc c'est comme ça que je suis allé de village en village pendant quelques années, avant de passer 4 ans près de Millau, relativement près de Millau, à Saint-Jean-de-Bruel. Et ensuite, nous sommes revenus dans le bassin mouillé à partir de mes 10-12 ans, je ne sais plus. Voilà, donc j'ai fini mon adolescence, ma préadolescence, dans le bassin.
Donc après départ à Montpellier, études de philo.
Et je me suis inscrit en philo, non pas vraiment par goût, mais parce que ça ne s'était pas trop mal passé au lycée en philo. Et surtout, j'ai vu que c'était là qu'il y avait le moins d'heures de cours. Il y avait 12 heures de cours en philo. Il y avait 3 UV de philo de 3 heures, plus une UV libre, qu'on prenait comme on voulait. Donc voilà pourquoi j'ai choisi philo. Puis j'ai une fois que j'ai eu la maîtrise de philo, je me suis inscrit sur la liste des maîtres auxiliaires, comme on disait à l'époque. et j'ai fait 5 ans d'enseignement de philo.
Moi, je t'ai connu, tu travaillais dans une agence, vous aviez monté avec un copain une agence de com.
J'ai fait ça parce que je me suis retrouvé démissionné parce que je ne savais pas que le refus d'un second poste comme titulaire équivalait à une démission. Alors, comme je ne voulais pas aller travailler dans le Nord, ben, j'ai décliné la seconde proposition qui m'a été faite et je me suis retrouvé voilà, avec... il fallait que je rentre de l'argent parce que démissionnaire, je n'avais pas de chômage ni rien. Et j'ai commencé à faire du conseil en communication, comme ça, tout seul. Et puis, j'ai trouvé les premiers boulots. J'ai pris un graphiste, puis une secrétaire. Puis voilà, puis c'est devenu un petit groupe, quoi. Que j'ai finalement refondu à la fin dans une seule société, une SCOP, une société coopérative. Avec les salariés qui ont repris ça, je leur ai tout laissé, le fond, là, et puis je suis parti pour écrire.
Donc là, on est en 98. La première saga sétoise.
J'ai arrêté la communication en 96 et j'ai commencé à écrire. Avec la fermentation de vivre de ça, c'était complètement débile, mais bon voilà, j'ai fait beaucoup de choses débiles dans ma vie, et, ma foi, c'est pas pire que de faire des choses pas débiles. Et depuis, ben, j'ai écrit, quoi, bon voilà, j'ai... Mes trois premiers romans sont parus presque en même temps, parce que je savais que c'était compliqué pour se faire éditer quand on connaît personne, quoi. Donc je me suis un peu renseigné, j'ai su que les éditeurs recevaient plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de manuscrits par jour, pour les plus gros. Et donc je me suis dit, bon, pour sortir du lot, comment qu'on peut faire? Alors bon, j'ai lu des conseils, parce qu'à l'époque, Internet était beaucoup moins développé que maintenant. Puis, je dis, alors il y en avait qui disaient, il faut écrire à l'encre bleue, il faut que ce soit imprimé à l'encre bleue, d'autres sur du papier vert, enfin non. Tout ça, c'est des conneries, ça tient pas la route. Et je me suis dit, bon, alors c'est vrai qu'ils reçoivent beaucoup de manuscrits, mais ils ne doivent pas souvent en recevoir 3 d'un coup. Donc tu vas écrire 3 romans et tu vas les envoyer ensemble. Et ça a marché. Bon, j'ai très vite eu une réponse positive d'un petit éditeur de Montpellier qui s'appelait Climat, qui a été racheté depuis par Flammario. Donc j'avais pas encore les réponses des éditeurs parisiens à qui j'avais envoyé le truc. Et donc il m'a téléphoné 3 jours après en disant « Ouais, je les prends ». Mais comme c'est un petit éditeur, je l'avais envoyé à des gros. J'ai dit « Oui, mais je peux pas, là, je suis très pris. » Voilà, j'avais rien à foutre, j'avais même pas d'agenda, tellement j'avais rien à foutre. J'ai dit « Eh ben, je reviens vers vous dans 3 semaines. » Et puis, bon, voilà. Au bout de 3 semaines, j'avais toujours pas de réponse des éditeurs parisiens. Et donc, je suis allé le voir en disant « Bon, ok, c'est bon, on signe. » Donc, j'ai signé pour lui pour ses 3 premiers romans. Et puis, quelques temps après, j'ai eu des réponses positives d'éditeurs parisiens. J'ai dit « Bon, ben là, voilà, pour ça, j'ai signé. » Mais entre-temps, j'ai écrit un autre roman et je peux vous le proposer. Donc, je l'ai envoyé. Et le roman suivant a paru aux éditions Métellier. Bon, voilà, c'était « Le rire d'Olga ». J'ai cherché le titre parce que l'éditrice a changé le titre.
Donc la trilogie, c'était le chichois baraquette, avec les loups, spécial dédicace et la théorie du chaos. J'ai l'impression qu'avec entre la famille Batelot et la ville de Sète, il y a un lien particulier.
Oui, alors pour différentes raisons qui n'ont pas grand-chose à voir. Moi, j'ai un lien particulier avec la ville de Sète parce que c'est là qu'à 17 ans... j'ai un peu découvert la vraie vie, quoi. Bon, non pas qu'avant, mais bon, là, je me suis retrouvé sur la route à partager la vie de copains qui zonnaient, comme on dit à cette époque, quoi. Puis j'ai appris à cracher le feu d'un vieux légionnaire, enfin, vieux légionnaire. À l'époque, je le trouvais vieux, il doit être beaucoup plus jeune que moi maintenant. Et donc, je me suis mis à cracher le feu. Et à devenir le roi du pétrole, parce que je gagnais un fric fou. Je gagnais un fric fou. Le mois précédent, j'avais travaillé dans une fromagerie au SMIC, 40 ou 45 heures, je ne sais plus, et j'avais gagné un peu moins de 1000 francs. Et là, je gagnais facilement entre 500 et 600 francs par soirée. Donc un demi-SMIC, quoi. Vu qu'on dormait sur la plage, c'était beaucoup d'argent, quoi. On invitait des tablés de zonards au restaurant. C'était. Donc, et c'est à 7 que j'ai vécu ça. Donc ça marque, quoi. Quand t'as, 17 ans et que tu vis ça, ça ébranle un peu la structure du monde que tu croyais fixe, quoi. Tu vois, tu te dis, mais bon, pour sortir des clous, il suffit que je fasse un pas de côté et je suis plus dans les clous, quoi. Et puis, ça a été très. Alors, soit formateur pour moi, soit, destructeur, je sais pas, mais les deux en même temps. Voilà. Bon, j'ai aussi connu là-bas. Mes premiers amours.
Très souvent, tu surprends tes lecteurs en explorant quasiment à chaque œuvre un nouveau genre littéraire. Alors, oui. Tu as fait du polar, de l'anticipation, du roman jeunesse. Alors, toujours, c'est très noir, bien sûr. Et comment tu expliques tous ces changements ?
Je ne les explique pas. Je les subis. C'est ce que je suis, quoi. Ça vient de moi. Alors, après, on peut toujours chercher des explications psy. Mais bon, ça ne change rien au fait que ce qu'on est, ça vient de l'intérieur de nous, et malgré ça, on le subit, quoi. Être libre, ça veut pas dire grand-chose, parce qu'on est toujours l'esclave de soi-même. Ne pas être libre, c'est ne pas avoir la possibilité de suivre ses pulsions. Ça, c'est une chose. Mais quand on les suit, c'est pas pour autant qu'on est vraiment libre, puisqu'on les choisit pas vraiment. Hein. Pourquoi j'aime cette fille plutôt qu'une autre ? Je suis bien infoutu de le dire, quoi. Je suis incapable de dire pourquoi. Et pourtant, ça vient vraiment de moi, ça vient du profond de moi, et ça vient d'un lieu de moi que je ne contrôle pas. Donc on peut dire qu'on est libre quand on a la possibilité de suivre ce qu'on ne contrôle pas et qui vient de nous, mais c'est pas pour autant qu'on le contrôle, quoi. Donc pourquoi je change de style, mais d'univers à chaque fois? Parce que j'aime bien le changement. J'aime pas refaire la même chose, quoi. Ça peut être marrant, mais je préfère partir sur un nouveau défi, je dirais, quelque chose comme ça. Quand je pars sur un roman, généralement, je ne sais pas trop ce que ça va faire. Donc, les éditeurs qui me demandent d'écrire un roman pour telle collection aiment bien avoir un synopsis, mais je les préviens que je ne le respecterai pas, parce qu'une fois que j'ai commencé, c'est plus complètement moi qui décide, là aussi, quoi. C'est un peu l'histoire, les mots, la musique des mots, les nécessités des personnages à qui on fait pas faire ce qu'on veut, quoi. Enfin, des fois, j'ai envie d'amener les personnages quelque part, et puis je rame, j'écris pendant 2 jours, 3 jours, et puis ils veulent pas y aller, quoi. Ça, la musique des mots se fait pas, ça veut pas. Et donc, bon, là, je lâche un peu, et puis je laisse un peu faire, quoi. Bon, et puis je sens que ça coule beaucoup mieux, et bon. Changer de genre, ça, j'aime bien. Mais c'est souvent à la demande des éditeurs. C'est des éditeurs d'une collection particulière, alors d'une collection historique, d'une collection science-fiction, d'une collection... Bon, là, je vais en faire un pour un truc érotique, on va dire. On me demande d'écrire, et dans cette contrainte-là, parce que chaque collection a un cadre particulier, j'ai envie... d'avoir toute la marge de manœuvre possible pour m'adonner aux joies de la création, vraiment, parce que quand tu sais où tu vas, c'est plus complètement de la création. J'aime bien que ça change, pour résumer tout ça.
À l'image de ces explications, quelle est l'écriture de quel roman t'a donné le plus de plaisir? Est-ce qu'il y en a un?
Je sais pas si on peut parler de plaisir, parce que c'est quand même du boulot, quoi. Quand tu vis plus ou moins de ça, même si t'en vis très mal, il faut aller au taf, quoi. Bon, le mineur va au charbon, l'auteur va à sa page, quoi. Bon, ce qui n'exclut pas du plaisir ou des moments de plaisir, mais il y a aussi des moments de labeur, quoi. Alors, des fois, le labeur amène le plaisir, mais c'est surtout quand c'est fait et qu'on regarde, j'imagine que le maçon qui regarde le mur qu'il vient de faire et qui le trouve chouette ou pas si mal que ça, que le boulanger qui trouve que le pain qui sort du four, là, on a du plaisir, quoi. Donc, parfois, quand je me relis, je me dis, ah, là, c'est pas mal, ça, quand même, c'est pas mal, tu vois, c'est pas... Et puis c'est bizarre, des fois il y a des moments où quand j'écris, je me marre tout seul quand j'écris un truc marrant, et je me retrouve à rire, à être le premier spectateur, enfin, le premier lecteur de ce que je fais. Et puis très souvent aussi, parce que j'aime bien écrire des scènes poignantes, très souvent je chiale, quoi. Et puis des fois je rechiale et je rechiale quand je relis, quoi. C'est bon, voilà.
Donc il y en a pas un particulièrement, quoi. C'est à la fois tous et aucun.
Non, je peux pas dire celui-là particulièrement, quoi. Alors c'est vrai que Geronimo et moi étant le dernier en date, bah, y a toujours une petite faiblesse pour celui-là, parce qu'en même temps c'est le plus présent dans mon esprit, c'est celui qui m'apporte le genre de plaisir du prix Robin Cook, bon, voilà, ce genre de choses, qui m'a apporté pas mal de critiques, voilà. Mais une autre raison pour laquelle je suis ravi de ce prix Robin Cook, c'est que, bon, ça fait maintenant 25 ans que j'écris, si c'est pas plus, et donc voilà, j'ai un petit nom dans le milieu du polar. Petit, hein, je ne me prends pas pour autre chose que ce que je suis. Et généralement, quand je sors un titre, j'ai la polardosphère qui s'en fait l'écho, quoi. Et par contre, la presse généraliste m'ignore superbement. Et pour celui-là, il s'est passé l'inverse, c'est-à-dire que le monde du polar l'a ignoré pratiquement complètement, bon, sauf exception notable, notoire et lumineuse, le prix Robin Cook. Un ou deux papiers, bon, voilà, qui étaient mitigés, et puis c'est tout. Et cette fois, c'est la presse généraliste qui s'en est fait l'écho de manière surprenante pour moi. Bon, il y a eu Le Figaro, il y a eu Canal+, il y a eu 8 ou 10 titres de la presse régionale, hein. C'est voilà, et cerise sur le gâteau, il y a eu une page entière dans Télé-Z, qui est, comment dire, le parangon de la presse grand public, vraiment, et qui tire à 2 500 000, enfin bon, voilà, c'était... Et puis, la meilleure critique que j'ai pu avoir de ma vie sur tous les livres, quoi. Bon, voilà, c'est très surprenant, et je comprends pas pourquoi ben, le monde du polar me boude avec ce bouquin, quoi.
C'est un débat qu'on a eu entre nous, et c'est vrai que certains ont dit, mais en fait, c'est pas un polar.
Ça me ferait presque plaisir, parce que un polar, c'est quoi ? L'étranger de Camus, c'est pourquoi c'est pas un polar ? Et pourquoi Fantasia chez les Ploucs, c'est un polar ? On pourrait très bien changer dans un autre monde. L'étranger pourrait très bien être un polar, et enfin bon, voilà. Donc moi, j'ai jamais vraiment su faire la différence entre ce qu'est un polar et ce qui n'est pas, quoi. Pour moi, il y a les histoires qu'on lit avec plaisir et celles qui font suer.
Bon, stop avec la littérature. Tu utilises maintenant un autre outil de communication, en quelque sorte, et pour partager aussi tes émotions avec les autres, c'est le film documentaire.
Oui, oui, alors là, je suis... bon, de toute façon, je me sens comme un usurpateur dans la littérature déjà, mais a fortiori dans la réalisation, quoi. Je suis pas réalisateur, je bricole pour faire des films, quoi. Le premier film que j'ai fait, je l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec René Garraud. Après, j'ai fait des petits films bricolés, puis là, je suis en train de faire un autre film de long-métrage, mais je me sens vraiment, comment dire, bricolo, quoi. Même si cette fois, c'est un film produit par une vraie maison de production qui est née à Saint-Afrique, qui maintenant déborde jusqu'à Montpellier, qui s'appelle Ander Andera. Eux, c'est des vrais professionnels. Ce film-là, pour en dire deux mots, il s'appelle Collapsus Paradise, et il est très difficile à faire pour moi parce qu'il parle de quelque chose qui me touche de près. C'est la destinée de ce qui va advenir, ce qui advient et ce qui va continuer à advenir à l'ex-bassin mouillé de Cazeville. Le titre du film en dit beaucoup, je crois. Comment dire, collapsus, il y a eu un collapsus, il y a eu un effondrement total, un effondrement, j'allais dire, pire qu'une guerre, quoi, parce que il y a peu de guerres qui vident un territoire de 2/3 de ses habitants, il y a peu de guerres qui laissent un paysage de ruines, il y a eu un effondrement terrible, et un effondrement aussi du moral des gens dont je fais partie. Bon, alors, je ne vivais pas là-bas à l'époque du grand effondrement, hein, qui était les années 90, là, ça a été le pire creux de la vague, quoi, et début des années 2000. Mais là, ça repart. Ça repart, et ça repart, on ne sait pas trop comment, ça repart fragilement. pour la première fois, il y a des jeunes qui viennent vivre ici, qui viennent pour travailler ici. Alors que moi, j'ai toujours connu, depuis que je suis né, une hémorragie de la jeunesse qui partait parce qu'il n'y avait plus de boulot sur place. Donc c'est un peu ces espoirs et leur fragilité face à la folie du monde quoi, que j'essaie de saisir. Voilà, là, on en est au montage et je suis sans Léo.
Pour terminer, une actualité littéraire actuellement ou...
Alors, oui, j'ai le grand plaisir d'avoir un cinquième titre qui paraît dans une petite maison d'édition qui s'appelle Ours Édition, qui fait un boulot que je trouve remarquable, qui n'est pas facile de se procurer ces ouvrages-là. Et j'ai la chance d'avoir un cinquième titre qui paraît chez eux et qui s'appelle Pimpant Février.
Lilian, en tout cas, bravo pour le prix Robin Cook.
Merci.
Et merci pour le plaisir que tu nous donnes à te lire.
C'est moi qui vous remercie.
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, au palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est en bordure de vos villes et c'est au pied de vos allées, ces ombres grises qui se faufilent, inquiétantes pour vous défier. Mais nos regards sont aiguisés et vos peurs sont incendiées. C'est la racaille. Eh bien, j'en suis. Ce n'est pas le pilier de bagne, c'est l'honnête homme dont la main a la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille des jours et quelquefois des nuits. C'est la canaille. Eh bien j'en suis. Tous les jours tu pars au turbin, dans ton auto, dans ton métro. Nous on ne veut pas de ce trafic, on veut de la maille, pas du turbin. Alors on traîne notre ennui sur les pavés de la cité. C'est la racaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui sans souffler rime rêveur, à sonner à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qui fait ripaille, qui loge et qui la déshabille. C'est la canaille. Eh bien j'en suis. Dans les cités de l'an 2000, la poésie brûle dans la rue. Elle griffonne sur tous les murs, ses mots d'amour et de colère. Nos moteurs arrachent le bitume, nos chevauchés sont fantastiques. C'est la racaille. Une armée immense, de la racaille à la canaille, qui depuis des années travaille pour engraisser quelques rupins, toujours avec esprit il raille, se moquant de votre mépris. C'est la canaille. Eh bien j'en suis.
La canaille, eh bien j'en suis, chant révolutionnaire composé par Joseph Darcy en 1865 avec des paroles d'Alexis Bouvier qui ont été revues et les paroles, puisqu'on parlait de racaille ici, et une version très rock chantée par Mireille Riva et le groupe Vox Populi. La canaille, chanson chantée lors de la Commune de Paris, période pendant laquelle on suit les aventures et mésaventures de Francine, l'héroïne de Géronimo et moi, de Lilian Batelot.
Il y a trop de gens qui ne savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Ouais, eh ben, le pinard, c'est pas interdit que je sache.
Les amateurs de picole vont être déçus. Aujourd'hui, c'est cours d'histoire, celle de la Commune de Paris. Cette période insurrectionnelle qui ne dura que 72 jours, du 18 mars au 28 mai 1871, se terminant par une répression terrible organisée par le gouvernement d'Auguste Thiers, la Semaine sanglante, au cours de laquelle, selon les historiens, 10 000, voire 20 000 et peut-être même plus, communards ont été fusillés. Et pourtant, de très bonnes idées étaient défendues pour les ouvriers, les femmes, l'éducation des enfants. Environ 5 à 6 000 communards se sont exilés, principalement en Grande-Bretagne, en Suisse, en Belgique et aux États-Unis, comme en Céline Viala, l'héroïne du roman de Lilian Batelot. Mais tous n'ont pas eu la chance de rencontrer Géronimo. Mais si vous voulez en savoir plus sur cette période trop peu connue de l'histoire de France, nous vous conseillons l'excellent livre « Paris 1871, l'histoire en marche », écrit par Joseph Hulat. Joseph Hulat, un ami de Polar Vin et Compagnie et de Radio Larzac, puisque administrateur de Radio Sainte-Afrique et qui habite dans le Rouget de Camarès. D'ailleurs, de ce livre a été tirée une conférence chantée que vous pouvez écouter en podcast sur Radio Larzac, rubrique événementielle résistante 2023. Mais revenons au vin, au pinard. Joseph nous a justement transmis quelques éléments nous éclairant sur la consommation de vin à cette époque. Les communards étaient des ivrognes. C'est imbibé d'alcool qu'ils ont pris le pouvoir, fait la fête et même délibéré. Les décrets qu'ils ont pris sur la famille et la religion le prouvent. Ils étaient tellement ivres que, inévitablement, ils ont été écrasés par l'armée versaillaise. Ce sont bien évidemment les pourfendeurs de la Commune qui le disent. Paul de Saint-Victor, ancien secrétaire de Lamartine, a ainsi écrit « L'ivrognerie était l'élément de règne de cette révolution crapuleuse. Une vapeur d'alcool flottait sur l'effervescence de sa plèbe. La bouteille fut un des instruments de règne de la Commune. Ses bataillons marchaient en titubant au combat. Il y avait du délirium très mince dans la folie de leur résistance. Ils tombaient ivres-morts sous les balles et sous les obus. » Quelques mois après les événements, même l'Académie de médecine qualifiait l'insurrection communaliste de monstrueux accès d'alcoolisme aigu. Mais soyons sérieux, ce n'est pas avec ce qu'ils gagnaient, 1,50 francs par jour, que les gardes nationaux pouvaient se nourrir et nourrir leur famille dans une ville assiégée. Voilà ce que disait le journaliste anarchiste Émile Pouget, qui est né à Pont-de-Salars, dans son Père Pénard, son journal, du 9 juin 1889. Il faudrait, nom de Dieu, de la bonne boustifaille, du bon piccolo ou du chouette petit bleu pour nous refaire du sang. Mais pour bouffer quelque chose de naturel, il faut être à la campluche. Dans les villes, il n'y a plus moyen, aussi bien dans les petites que dans les grandes. Le piccolo, un vin de gamay si mauvais qu'on le surnomme aussi le crapontois au bord de la table. Le piccolo, d'où l'on tirera l'argotique verbe picoler. Sinon, saviez-vous que le communard est un apéritif ? Il s'agit en fait d'un kir où le vin rouge remplace le vin blanc. C'est un apéritif typiquement bourguignon. Il prend son nom du patois bourguignon où le cassis était appelé le commun. Un tiers de crème de cassis, deux tiers de vin rouge qui est généralement un pinot noir de Bourgogne. L'occasion de faire un clin d'œil à Audrey Brière, autrice du roman Les Malvenus, qui a obtenu une très belle deuxième place au prix Robin Cook et que nous encourageons à persister dans le roman noir. Et pourquoi l'avoir baptisé communard ? Tout simplement pour sa couleur évoquant le drapeau rouge de la Commune de Paris. Voilà, c'était le dernier numéro de Polar Vin et Compagnie pour cette saison. Nous espérons que cette émission quinzomadaire vous a intéressé. Vous pouvez écouter tous les épisodes en podcast sur radiolarzac.org, rubrique émission, évidemment Polar Vin et Compagnie. Nous vous souhaitons un très bel été avec de bonnes lectures de polars et de romans noirs. Et attention, les livres de plage peuvent être eux aussi de très bons livres. C'est un private joke. Au revoir Guy.
Au revoir.
Au revoir Florent.
Au revoir et bel été.
Merci à tous ceux bénévoles de l'asso, auteurs qui ont participé à cette émission. Et évidemment, merci à notre conducteur Nicolas.
Avec plaisir. À la saison prochaine, bel été à vous.
Merci.
Merci. Merci.